France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Proposition du jour, randonnée et bien manger. Déguster des produits locaux. Cuisiner sans esbrouf, mais avec exigence, en respectant le rythme des saisons. De préférence, dans un décor superbe et après une bonne balade. Tout ça grâce au guide Bobine des auberges. Bobine, c'est une revue papier indépendante, dont j'ai déjà parlé à ce micro. Revue auto-éditée qui propose des portraits pour raconter les campagnes françaises et qui s'est lancée cette fois dans un guide, avec notamment des adresses dans le Pays Basque, les Pyrénées-Atlantiques, sont à l'honneur cette semaine dans les carnets. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour François Piccione.
Bonjour Dorothée.
Vous êtes le cofondateur de Bobine. Vous avez fabriqué ce guide grâce à une campagne de financement participatif qui vient tout juste de se terminer. C'est un très bel objet de presque 200 pages qui propose des auberges un peu partout en France, notamment dans des endroits accessibles après une randonnée. Donc, quels ont été vos critères de choix? Que doit proposer une auberge pour figurer dans votre guide?
Oui, alors effectivement, dans notre guide, il a fallu différents critères pour pouvoir faire le choix des auberges qu'on a référencées dans ce guide. Donc effectivement, il y avait les critères du maillage territorial. Donc il fallait avoir une bonne représentation de la France dans ce guide. Déjà, c'était un des premiers critères. Ensuite, il fallait qu'il y ait des rencontres humaines. Dans notre média, on a toujours eu une approche profondément humaine, donc c'était un des critères aussi importants pour sélectionner nos adresses. Ensuite, évidemment, ça va de soi, il fallait une cuisine locale et de saison. Hein, quand on parle de bonne bouffe et de bonne cuisine, il fallait qu'il y ait ce critère-là aussi. Il y a un critère qui était très important pour nous, qui est le dernier, et justement presque celui qui est essentiel, c'est qu'on voulait pas faire un guide de bonne table à la mode, on voulait en fait des adresses où on retrouve un peu le goût du détour ou le goût du voyage. Donc nous, ce qu'on va proposer, en fait, c'est des adresses qu'il faut aller presque chercher, aller dénicher, comme vous le disiez, au bout d'un sentier après 3 heures de route ou faire une randonnée, ou même traverser la mer parfois, et c'est ça qui fait leur charme.
Qu'est-ce qui fait la différence, au fond, entre un restaurant et une auberge ?
C'est une super question. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est vraiment déjà le fait que ces auberges se méritent. Donc, elles sont souvent un peu plus éloignées au détour d'un sentier, sur une île ou alors après un randonnée. Donc, il y a cette notion d'effort. Moi, je pense que déjà, c'est ce qui fait une première différence. Ensuite, il y a parfois une histoire aussi, une histoire notamment des gérants, des cuisiniers aussi ou parfois des paysans parce qu'on a quelques fermes auberges qui sont référencées dans notre guide. Et puis après, moi, je pense ce sont des lieux qui donnent faim, comme les restaurants, mais faim de bonne cuisine, faim de paysage aussi, parce que ce sont des lieux qui sont ancrés et identifiés dans des territoires, et puis faim de belles rencontres. Et la rencontre, elle est essentielle dans notre guide, vraiment cette rencontre humaine. Hein, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi le nom Bobine. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'on repart de ces auberges le ventre plein, ça, c'est sûr, mais le cœur aussi. Et finalement, c'est presque tout aussi important,
oui. Oui, les portraits des hommes et des femmes qui font vivre ces auberges sont très soignés dans votre guide. C'est bien la moindre des choses quand on s'appelle Bobine. Ce sont les tronches qui vous intéressent.
Oui, on a toujours eu une approche vraiment profondément humaine dans nos reportages. Et avec ce guide auberge, finalement, c'est pareil. On n'a pas cherché seulement à mettre en avant des bonnes tables. On est allé à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ces lieux, donc des familles, des cuisiniers, des paysans, des gens finalement qui ont une histoire, qui ont un ancrage et qui ont une manière de parler de leur territoire, qui nous ont donné envie en tout cas d'y passer du temps. Et puis en fait, on s'est vite rendu compte aussi que ces auberges, elles permettaient de retisser du lien qu'on a un peu perdu dans nos quotidiens parce qu'on a pris beaucoup l'habitude de manger devant nos écrans aujourd'hui. Et donc, échanger ne serait-ce qu'avec les gérants ou avec son voisin de table, ça fait du bien. Donc voilà, ça nourrit autrement. Finalement, on est nourri par l'assiette, mais on est nourri aussi par les rencontres qu'on y fait.
Les carnets de campagne sont focalisés sur les Pyrénées-Atlantiques cette semaine, François. Et il y a notamment une adresse incontournable dans le Pays Basque et dans votre guide. C'est l'auberge d'Ahuski.
Alors oui, l'auberge d'Ahuski qui est perchée à 1300 mètres d'altitude, où justement il faut faire cet effort pour y aller. Et c'est très bien, puisqu'il y a presque une sélection naturelle qui se fait dans le fait d'y aller. Donc il n'y a pas forcément ces queues et ces files d'attente qu'on peut retrouver dans certains restaurants, notamment dans les grandes villes. Et donc c'est une auberge qui est tenue par une famille depuis presque 100 ans. Donc Michel, Jean-Marc et leur fils Johan, donc à 1300 mètres d'altitude. Et puis donc c'est une histoire de famille. on y mange bien, mais on peut aussi aller boire son café. Et en fait, les auberges, on s'est aussi rendu compte avec Justine, donc ma collègue avec qui on a fait ce guide, qu'elles jouaient aussi ce rôle de tissu social, parce que parfois, en fait, c'est le seul endroit qui reste encore ouvert et encore accessible. Alors, pour une randonnée, certes, mais aussi à l'échelle d'un village. Et donc, l'auberge des Huskies joue aussi ce rôle social très important dans les Pyrénées. Et puis, on y mange très bien. Je pense notamment au beignet d'aubergine, au potage de légumes, au magret de canard. Donc voilà, ce sont des endroits, et l'auberge des Huskies en est un super exemple, voilà, où on mange bien, où on tisse du lien, où on passe un bon moment et on retrouve cette convivialité qu'on a un petit peu perdue aujourd'hui.
Autre adresse dans le 64, la ferme auberge Cometeico Borda, qui est ouverte de mars à novembre. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cet endroit ?
Ce qui était hyper intéressant avec la ferme auberge Cometeico Borda, c'est qu'on était justement sur une ferme auberge. Donc en fait, bon, déjà il y avait le sens de l'accueil qui était toujours présent, mais en plus on avait droit aux bons produits issus de la ferme. Et donc ça, c'est intéressant en fait de se dire que du champ à l'assiette, il n'y a qu'un pas. Et c'était le cas pour la ferme auberge Cometeico Borda, qui est en plus tenue par une femme. Et ça aussi, c'était pour nous important de mettre en avant des profils de femmes en cuisine. Et c'était le cas pour Cometeico Borda. Donc pareil, on y mange super bien, la salade fermière, les saucisses, le gâteau basque, évidemment, les glaces aussi sont faits maison. Donc on a une carte à 100% maison et des produits qui sont issus de la ferme. Donc ça aussi, c'était une adresse pépite dans les Pyrénées-Atlantiques.
Mmh. Avec là aussi un très beau portrait de la patronne, Arantxa Lartigue, qui tient cette ferme auberge. Ce sont finalement aussi bien des portraits que des conseils de resto, ce guide.
Oui, tout à fait. En fait, nous, ce qu'on voulait à travers ce guide, c'était un peu proposer un remède aux mots de l'époque, hein, parce qu'on a pris l'habitude aujourd'hui d'être conseillé par notamment les réseaux sociaux quand on cherche une adresse. On a perdu un petit peu ce goût d'oser pousser la porte et d'oser la rencontre. Et ça, c'est un des critères qui nous a aussi permis et motivé à faire ce guide, c'était de proposer des adresses pour se laisser surprendre aussi, de proposer des adresses qui parfois mettaient un plat au milieu de la table. Et ça, c'est une anecdote aussi qu'on a retrouvée sur beaucoup de lieux, c'est que dans de nombreuses adresses, en fait, le plat était posé au milieu d'une grande table et fallait apprendre à se resservir les uns les autres. Et ça aussi, c'est une habitude qu'on a perdue, c'est-à-dire de se passer les assiettes, de se passer le sel, de passer le poivre. Et en fait, ça, c'est des gestes en fait qui tout de suite nous permettent de retisser du lien aussi entre les personnes qui mangent autour d'une même table, de pouvoir échanger. Donc effectivement, nous, c'est essayer de retrouver ce goût d'oser pousser la porte, d'oser la rencontre qu'on a souhaité mettre en avant dans ce guide.
Je vois au début de votre guide une petite carte de France avec la liste des auberges. On est dans le sud-ouest, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, en Corse, dans le nord de la France aussi, mais il n'y a pas du tout de Bretagne ni de Normandie. Il faudra faire un deuxième tome.
Alors effectivement, ça appelle une suite. Donc en fait, comment on a procédé ? On a fait c'est un guide qui est collaboratif. Donc on a fait une sorte d'énorme boîte à questions au début de l'année où on a sollicité notre audience pour essayer de référencer un maximum d'adresses. Et puis ensuite, il a fallu faire des choix à partir des critères que j'ai évoqués tout à l'heure. Mmh. Alors il y a une petite adresse en Bretagne qui est cachée, qui est à Ouessant.
Ah. Mais effectivement, la fameuse île dont vous parliez.
C'est une petite île, exactement. Il n'y a pas encore d'adresse en Normandie, mais voilà, ce qu'on a voulu, c'était vraiment en fait faire une sélection d'adresses, mais prendre le temps de les raconter. Donc on n'est pas sur un guide classique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète un guide de voyage, on a déjà sa destination en tête. Avec le guide auberge, c'est de se dire, si je partais de l'auberge pour aller découvrir les Pyrénées-Atlantiques, si je partais de l'auberge pour passer mon week-end, mes vacances. Donc c'est vraiment comme ça qu'on a essayé de construire le guide. C'était d'essayer d'avoir une sélection d'adresses qui sont racontées, qui sont illustrées par de belles photographies, et de pas proposer un guide catalogue comme on peut le trouver et qui existe déjà. Donc c'était de proposer quelque chose de différent.
Critère important également, le prix des menus, toujours à peu près abordable.
On a voulu effectivement afficher les prix des plats, des menus enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup de menus enfants qui sont proposés. Donc pour nous, c'était important d'être transparent aussi sur ce point-là. Ça peut partir d'une dizaine d'euros pour un plat jusqu'à parfois une quarantaine d'euros pour un menu. Mais en tout cas, nous, ce qu'on assure, c'est que vous ne serez jamais déçus parce que vous aurez une vraie expérience dans l'assiette. Ça commence par là, mais vous aurez aussi une vraie expérience en termes de richesse, de rencontres humaines et puis ensuite de découverte des endroits où sont nichées ces adresses.
Quant au prix de votre guide, il est de 25 euros. On le trouvera notamment dans certaines librairies, mais on peut aussi l'acheter en ligne. Et c'est un objet qui est imprimé en France.
Évidemment, ça c'était important d'imprimer ce guide en France. Il est aussi sans publicité, il est collaboratif, donc on n'est pas les seuls à l'avoir conçu. On a aussi une petite équipe autour de nous qui nous ont aidés à dénicher ces adresses. Et donc effectivement, pour nous, le prix, c'était un point aussi difficile. C'était quel prix de vente pour ce guide, en sachant en plus qu'on fait face à des aléas que connaît tout le milieu de l'édition, c'est-à-dire l'augmentation du prix du papier, du coût de l'énergie. Donc voilà, faut être un peu fou aujourd'hui pour lancer un guide papier. On a essayé de faire le prix le plus juste possible. Moi, ce que je dis, c'est que finalement, on aura gagné notre mission au sein de Bobine quand les personnes qu'on met en avant dans nos guides ou dans nos revues seront aussi lectrices et lecteurs. Donc c'est ce qu'on se donne comme mission et on espère y arriver.
J'imagine que vous avez testé toutes ces auberges, évidemment, à titre personnel. François, est-ce que vous avez un souvenir marquant à me raconter ?
Moi, ce qui m'a marqué, c'est... par exemple, la découverte du Massif Central, j'y avais jamais mis les pieds et ça a été des rencontres exceptionnelles. Je pense à la chaîne des Puits avec l'auberge du lac de Guéry, un lieu qui est incroyable. Mais je pense aussi à la rencontre avec Denis dans le bureau de la Combe de la Sort à peu près 2000 mètres d'altitude dans le Cantal. Ça a été aussi manger une truffade tout là-haut et presque seul au monde. Enfin, c'est, en fait, vraiment, on en a pris plein les yeux, on en a pris plein les papilles et puis voilà, on repart plein de souvenirs. Et justement, on a laissé aussi quelques espaces pour griffonner dans notre guide. L'idée, c'est justement de pouvoir noter ses souvenirs aussi, le repas qu'on a mangé, les rencontres qu'on y a fait. Donc, c'était important pour nous que ce soit un objet papier pour pouvoir aussi glisser des mots, des souvenirs.
Voilà, le guide Bobine des auberges, ça coûte 25 euros. C'est disponible en ligne et en librairie. Merci beaucoup, François Pitchonne.
Merci, Dorothée. Et bon appétit à tous.
Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Un coup d'œil à la boîte mail des carnets. Vous nous avez signalé des initiatives dans les Pyrénées-Atlantiques. Voici le message de Joël. Je connais des gens formidables qui transforment nos coins de campagne en féerie théâtrale. La compagnie se nomme Tout droit jusqu'au matin. C'est une référence à Peter Pan, précise cette auditrice. Deuxième étoile et tout droit jusqu'au matin. La compagnie a été fondée par des comédiens professionnels qui montent des pièces et se produisent sur des scènes nationales. Mais depuis 10 ans, ils créent aussi quelque chose d'unique. Les spectacles d'été. Pendant 3 semaines, ils s'installent dans un village béarnais. Petit, le village. 200, 400 habitants. Allez, 1000 grands max, écrit Joël. Ils repèrent les lieux remarquables, les anomalies, les singularités. Ils écrivent une pièce qui est souvent une réinterprétation d'une œuvre, d'un conte, d'un mythe. Il y eut Peter Pan, bien sûr, mais encore Robin des Bois ou Dracula. Et ils invitent les gens du village à devenir les comédiens et comédiennes d'un été, enfants et adultes. Ceux qui ne veulent pas être sur scène deviennent costumiers, montent le décor ou sécurisent les accès du village. Pendant 3 semaines, tous les jours, on travaille avec des professionnels. Et puis la dernière semaine, à la tombée de la nuit, le spectacle est donné. Et de voir Pinocchio émergeant d'un champ de maïs ou Dracula surgir au portique de l'église, les lieux du quotidien sont transfigurés. C'est du spectacle vivant, très vivant, du théâtre populaire et de véritables moments de grâce, conclut cette auditrice. La création 2026 est déjà en route, ce sera la légende arthurienne dans le village de Géous d'Arzac en août. La compagnie, je le rappelle, s'appelle Tout droit jusqu'au matin. Et puis je voulais vous reparler de la maison Butine. J'en ai parlé mardi à ce micro parce qu'une auditrice nous l'avait signalé. Ferme florale bio à Monin, près de Pau, créée par une ancienne avocate qui a quitté Paris pour les fleurs. Eh bien j'apprends à présent dans un message de la floricultrice en question, Lorraine, que c'est sa maman qui nous avait écrit un message. J'en suis d'autant plus touchée, écrit Lorraine, que ma mère n'était pas vraiment ravie que je retourne au monde paysan dont elle était si fière de s'être extraite. L'histoire est belle. La maison Butine, des fleurs locales et bio, à Monin, dans le Béarn. Un grand merci à l'équipe des carnets de campagne. Lucie Grandet-Lavigne prépare cette émission avec l'aide de Jade Bellag. Raphaël Rousseau était à la technique aujourd'hui.